4. Et la première chose que l'on peut constater, c'est que l'évolution de la sinistralité a été relativement clémente. Notre portefeuille croît chaque année. Hein, vous voyez, nous assurons en fin d'année 596 854 sociétaires, toutes spécialités, toutes professions et tous statuts confondus, donc une augmentation de 2,65% de notre portefeuille. Et on a constaté une baisse des déclarations de sinistre, moins 5%, évidemment. C'est satisfaisant, mais vous voyez donc 4053 déclarations de dommages corporels, comme chaque année. Je mets de côté les sinistres matériels qui sont de moindre importance. Donc c'est évidemment une baisse qui est intéressante, sans doute liée à des tas de facteurs, la prévention et d'autres facteurs encore, on y reviendra. Mais je dois dire que cette bonne nouvelle, elle est tempérée par l'exercice en cours, puisque sur 2025, on y reviendra l'an prochain, sur 2025, sur les 8 premiers mois de l'année, eh bien, nous constatons une augmentation de plus de 10% des mises en cause de responsabilité. Vous voyez que ça tempère tout de suite la bonne nouvelle de 2024. Et donc, sur 2024, en tout cas, une petite baisse de sinistralité, on est sur une fréquence de 0,71% sur l'ensemble de notre portefeuille, qui ne veut absolument rien dire. C'est ce que je vous répète chaque année. Tant les taux sont hétérogènes d'une spécialité à l'autre, et bien sûr, on va y revenir. Donc une petite baisse, on la voit au niveau des médecins, notamment. On a une fréquence globale de 1%, mais là encore, selon les spécialités, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a une très grande hétérogénéité. Sur les kinésithérapeutes, c'est à peu près les mêmes chiffres que l'an dernier en termes de fréquence, aussi pour les infirmiers, mais avec un taux beaucoup plus faible. Et on constate une petite baisse chez les chirurgiens-dentistes, mais qui sont toujours proportionnellement plus mis en cause que les médecins au global. Ça tient à différents facteurs, et notamment certainement quant au reste à charge lié à leurs prestations. Et puis en valeur absolue et sur l'ensemble de la population, ce sont toujours les vétérinaires, vous voyez, qui ont le taux de fréquence le plus important. Sur si on veut raisonner en valeur absolue sur l'ensemble de nos déclarations de sinistre, eh bien, ce sont les médecins généralistes qui nous déclarent le plus de sinistre. C'est le cas chaque année. Et viennent en second lieu les chirurgiens orthopédiques, et puis en troisième lieu les ophtalmologistes. Mais là encore, et vous allez le voir tout de suite, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque tout dépend de l'importance du portefeuille représentatif dans chaque discipline ou spécialité. Et on assure un peu plus de 65 000 médecins généralistes, alors que nous assurons entre 650 et 700 chirurgiens orthopédiques. Donc vous voyez que la fréquence n'a rien à voir entre ces deux spécialités. Voilà le top 10 des spécialités en termes de fréquence. C'est en 2024 la neurochirurgie qui arrive en tête, et largement en tête. C'est certainement lié à la nature des interventions qui sont pratiquées. Vous voyez qu'on a en 2024 une fréquence de 74%, presque 75%. Ça veut dire que quand on assure 100 neurochirurgiens, eh bien, nous enregistrons dans l'année 75 réclamations. C'est un taux de sinistralité qui, évidemment, est considérable. Et puis vient en second lieu, et en fait presque ex aequo, la chirurgie viscérale et la chirurgie orthopédique. Donc Évidemment, c'est toujours la chirurgie au global qui est la plus mise en cause en fréquence, et puis ensuite la chirurgie plastique et esthétique. L'anesthésie, vous voyez, baisse un petit peu cette année, mais elle reste tout de même à des taux qui sont importants. Et la médecine générale, parce que là vous avez le top 10, la médecine générale, on est à 0,75% de fréquence sur l'année. Au niveau de la nature des mises en cause que nous constatons, eh bien, ce sont les mêmes tendances que les années précédentes. Vous voyez, la grande majorité des mises en cause, nous les gérons à l'amiable totalement. On est à 40% comme l'année précédente. On voit une petite reprise au niveau des mises en cause devant les commissions de conciliation et d'indemnisation créées par la loi Kouchner. On est à 32%. Et donc, voilà l'amiable. L'amiable représente pratiquement les trois quarts des dossiers que nous gérons. Et les plaintes civiles, le contentieux civil baisse légèrement, mais il est évident que depuis de nombreuses années, il est subsidiaire par rapport au reste des réclamations que nous gérons. Et puis les plaintes pénales, on y reviendra, elles sont rares, elles sont même assez exceptionnelles cette année. En 2024, nous avons enregistré 10 décisions pénales au fond et pas plus. Évidemment, c'est la procédure qui est la plus redoutée des professionnels de santé, mais elle reste vraiment exceptionnelle. À côté de ces nouvelles qui ont tendance à montrer une baisse du risque, eh bien, malheureusement, on voit un niveau de sévérité des magistrats dans les décisions de justice qui sont intervenues en 2024 qui n'a jamais été atteint à ce jour. 294 décisions de justice civile rendues, c'est moins 15% par rapport aux années à l'année précédente. Cette baisse, elle doit tenir d'une part au fait que nous avons constaté une petite baisse de la sinistralité et liée très vraisemblablement à la pandémie Covid, pour laquelle nous avons enregistré une baisse de la sinistralité. Et donc le temps que les dossiers soient jugés, on voit cette baisse au niveau des décisions civiles. Ce qui est extrêmement important, donc c'est ce que je vous annonçais là il y a un instant, 75% des décisions de justice civile que nous enregistrons se terminent par la condamnation d'au moins un professionnel de santé mis en cause. Ce chiffre, nous ne l'avions jamais atteint. C'est plus 5 points par rapport à l'année précédente, et donc cela traduit évidemment, mais on y reviendra, une sévérité toujours plus importante des magistrats et un désir d'indemniser les préjudices subis qui est de plus en plus prégnant. 75%, vous voyez l'évolution là sur les 10 dernières années, mais pour prendre un comparatif un petit peu plus large, dans les années 80 à 85, la moyenne, c'était un tiers des décisions de justice qui se soldaient par une condamnation d'un professionnel de santé mis en cause. On arrive aujourd'hui aux trois quarts de décisions de justice qui se prononcent pour une condamnation. Si on veut faire donc un focus sur les médecins qui sont poursuivis devant la justice, eh bien ce sont en valeur absolue les chirurgiens qui arrivent très nettement en tête dans notre panel, suivi par les généralistes et puis en troisième lieu par les anesthésistes réanimateurs, mais compte tenu de la fréquence que je vous ai annoncée, ça n'est pas étonnant. Et donc au sein de la chirurgie, vous voyez, et là encore c'est la traduction de la fréquence dont je vous ai parlé, les chirurgiens orthopédiques viennent en premier lieu dans les chirurgiens qui sont poursuivis, et suivi en second lieu par les chirurgiens viscéraux et digestifs, et notamment avec les toute la pratique de la chirurgie bariatrique. Pour reprendre dans un objectif de prévention, puisque c'est ce qui préoccupe et occupe nos équipes dans le cadre de la volonté de réduire le risque et de limiter les réclamations des patients, eh bien, nous classons les principaux motifs de mise en cause de responsabilité. Et ces principaux motifs, ils tiennent d'une part à l'information, qui peut être défaillante, à la traçabilité des soins. Et ce que l'on constate, c'est que lorsque cette traçabilité n'est pas effective, eh bien, les magistrats ont tendance à considérer qu'il y a un renversement de la charge de la preuve, et que lorsque les actes n'ont pas été tracés, finalement, il incombe à ce moment-là aux professionnels de santé mis en cause de démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Vous voyez, c'est un renversement de la charge de la preuve, la plupart du temps, qui est opéré par les magistrats et qui, sur un plan juridique, évidemment, est extrêmement difficile, aboutit à des condamnations, parce que démontrer qu'on a bien fait les choses, c'est quand il y a un préjudice et un événement indésirable grave qui s'est passé, c'est extrêmement délicat. Et puis il y a bien sûr aussi la rigueur diagnostique. Alors, ça se retrouve, vous voyez, pour les chirurgiens, les médecins généralistes, les anesthésistes réanimateurs. Donc, les motifs principaux, c'est la mauvaise tenue du dossier avec des mauvaises prises en charge et donc la difficulté à démontrer qu'on n'a pas commis de faute lorsque ce renversement de la charge de la preuve est adopté par les magistrats. Sur les chirurgiens, c'est aussi le défaut d'information et puis des prises en charge défaillantes, notamment en termes au niveau des infections nosocomiales. On a, vous savez, un régime particulier en matière d'infection, puisque les cliniques et les hôpitaux publics répondent de leurs responsabilités, même sans faute, en matière d'infection. Et s'agissant des praticiens, il faut démontrer leur faute. Eh bien, c'est souvent ce qui est mis à la charge des chirurgiens, un retard de diagnostic ou une prise en charge inadaptée de l'infection. Pour les généralistes, dans un tiers des cas, ce sont des retards et défauts de diagnostic qui sont mis en cause, AVC, infarctus du myocarde, et puis pour les anesthésistes réanimateurs, des problèmes d'antibioprophylaxie ou d'antibiothérapie, qui, alors une absence de prescription ou des dosages inappropriés. Comme je vous l'ai dit, un taux de condamnation qui est inédit dans nos annales, 75% de condamnation au niveau des décisions de justice, d'au moins un mis en cause. Alors, évidemment, cette sévérité des magistrats, comme je vous l'ai dit, elle peut s'expliquer par le désir d'indemnisation. Ça, c'est une évidence. Et ce que l'on peut constater, c'est que souvent, le droit à l'indemnisation prend le pas sur le droit à la responsabilité. Mais il y a aussi, et très vraisemblablement, et on fera un focus sur cette problématique, comme vous l'a dit Stéphane, dans quelques instants, la pénurie de soignants et les déserts médicaux qui ont un impact sur la qualité des soins indéniablement. Alors, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une surcharge de travail pour les professionnels de santé concernés qui peut être source d'erreurs. Le fait de ne pas prendre en compte des résultats d'examen prescrits, à titre d'exemple. C'est aussi comme conséquence le burn-out, l'épuisement professionnel qui va être source d'erreurs ou de négligence. 86%, vous voyez, des professionnels de santé pensent que leur santé mentale a un impact sur la qualité des soins et sur la bonne conduite de leur mission quotidienne. C'est aussi une dégradation de la qualité de la relation soignant-patient, cette pénurie de soignants et des déserts médicaux, et des délais d'accès à des médecins spécialistes qui sont incompatibles avec une prise en charge de qualité. Voilà, tous ces facteurs conjugués, très certainement, expliquent cette évolution des décisions de justice et ce taux de condamnation que nous n'avions jamais atteint. Moins de décisions de justice, mais des condamnations qui aboutissent à des montants identiques aux années précédentes. Et c'est dire donc que les décisions de justice que nous avons enregistrées aboutissent à des condamnations de plus en plus lourdes. Il y en a moins, mais on conserve un niveau d'indemnisation équivalent. Vous voyez, dans les décisions de justice que nous avons engrangées dans nos dossiers, 62 millions d'euros. Et on va y revenir, mais on a 10 dossiers qui octroient des indemnisations supérieures à 1 million d'euros. On a même un dossier qui octroie une indemnisation supérieure à 7 millions d'euros, et pour un dossier qui n'est encore pas soldé, donc dont le montant dépassera encore cette somme, et trois dossiers entre 4 et 7 millions d'euros. Tout ceci s'explique par l'inflation, par l'évolution du coût de la vie. Tout ceci s'explique aussi par le fait qu'on indemnise de plus en plus de préjudices et des préjudices qu'on indemnise de façon de plus en plus lourde. Pour faire un focus sur les médecins, on constate que 61% des indemnisations à la charge des médecins, dans les décisions de justice que nous avons enregistrées, se répartissent d'abord sur les chirurgiens, ensuite sur les pédiatres, je vais y revenir, et enfin sur les obstétriciens. Pour faire un focus sur la chirurgie, qui véhicule donc le plus grand nombre d'indemnisations, pour faire un focus sur la chirurgie, je vais peut-être y arriver. Bon. Voilà.
Bon. Tu fais ton chat, non ?
Pour faire un focus sur la chirurgie, c'est l'orthopédie, là encore, qui arrive en premier plan sur le montant des indemnisations, suivi du digestif et viscéral, dans lequel, comme je vous l'ai dit, on inclut la bariatrique, et puis la chirurgie gynéco en troisième position. Les trois plus gros dossiers que nous avons enregistrés en 2024, vous voyez, aboutissent à pratiquement 30 millions d'euros d'indemnisation. C'est dire que un ou deux dossiers supplémentaires avec des indemnisations de cette nature dans un bilan changent complètement la donne. La plus forte indemnisation que nous avons eu à subir concerne un pédiatre à qui il a été reproché un retard fautif dans la prise en charge d'un nouveau-né avec des séquelles neurologiques extrêmement importantes. C'est un dossier, vous voyez, pour lequel notre sociétaire pédiatre a été condamné à 7,3 millions d'euros. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, cette indemnisation record en 2024 ne liquide pas la totalité des préjudices, parce qu'il reste encore à liquider les dépenses de santé actuelles, l'aménagement du logement et du véhicule, les pertes de revenus des proches, et donc c'est un dossier dont le coût sera encore bien supérieur à celui que nous avons dû débourser à hauteur de 7,3 millions. La deuxième indemnisation la plus lourde, elle est partagée entre un généraliste et un rhumatologue qui ont été l'un et l'autre condamnés, et nous assurons les deux, pour une prise en charge fautive d'une infection cutanée qui a été mal prise en charge à la fois par ce généraliste et par ce rhumatologue, Et ce qui s'est terminé malheureusement pour le patient par une tétraplégie, vous voyez, c'est un dossier dont le coût a été liquidé à hauteur de 5 millions d'euros. Et là encore, le préjudice n'est pas définitivement fixé, puisque là encore, les dépenses de santé futures, l'aménagement du véhicule et l'aménagement du logement n'ont pas été liquidés par les magistrats. Donc le montant de l'indemnisation sera supérieur à ces 5 millions d'euros. Et puis le troisième dossier, c'est un accouchement qui s'est malheureusement extrêmement mal terminé, avec des séquelles neurologiques importantes pour le bébé, et un partage de responsabilité entre la sage-femme, à qui on a reproché d'avoir appelé de façon tardive l'obstétricien, et d'autre part l'obstétricien à qui il a été reproché d'avoir de ne pas avoir césarisé à temps la parturiente. Là encore, un montant d'indemnisation extrêmement important, vous voyez, 4,7 millions d'euros pour l'ensemble des préjudices, parce que là, tout a été liquidé dans ce dossier. Reste que on peut toujours revenir en aggravation si le préjudice de l'enfant évolue par la suite.
Excusez-moi, comment vous arrivez à 29.1 avec
alors,
3 plus 5 plus 4
plus 7, parce que en fait, vous avez les provisions qui restent dans ces dossiers que nous avons ajoutés. Parce que, comme je vous l'ai dit, tout n'a pas encore été liquidé par les magistrats. Je reviens, voilà. Sur le pénal, maintenant, on a, comme je vous l'ai dit, peu de décisions. On a 10 décisions qui sont intervenues au fond. J'évacue toutes les décisions rendues avant le fond. 10 décisions et 4 décisions qui vont sanctionner les professionnels de santé poursuivis. Donc 40% de décisions de condamnation, 14 professionnels qui étaient mis en cause. Et la particularité cette année, c'est qu'on a la plupart de ces dossiers ont pour origine des décès de patients, et donc ce qui était reproché aux professionnels de santé, c'était des homicides involontaires. Alors voilà les professionnels de santé qui étaient poursuivis. Quant à ceux donc qui ont été condamnés, ce que l'on constate, c'est que ce sont des peines qui sont lourdes, voire même très lourdes, qui ont été prononcées. 5 emprisonnements avec sursis et en plus une peine d'amende. Le premier des dossiers, c'est un homicide involontaire, et il concerne à la fois un interne en chirurgie et une infirmière. Je ne vais pas détailler les faits trop longtemps par souci de célérité, mais un interne qui fait une prescription orale, d'une part, une infirmière qui malheureusement se trompe dans la posologie et qui va injecter 10 fois plus de morphine que ce qui avait été prescrit. Et se rendant après le décès du patient, l'infirmière qui va revenir sur le dossier médical que l'interne entre-temps avait rempli en inscrivant sa prescription, et par crainte de poursuite, l'infirmière va maquiller le dossier et va rajouter un zéro pour essayer de couvrir sa faute, ce qui évidemment a été démontré par la suite, et donc une peine beaucoup plus lourde pour l'infirmière, non seulement du fait de l'homicide involontaire qui lui a été reproché, mais ensuite du fait de l'altération du dossier médical pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Le deuxième dossier, c'est encore un homicide involontaire où un radiologue et un urgentiste étaient mis en cause, et le radiologue ne diagnostique pas sur le premier scanner l'origine de la pathologie, alors que c'était parfaitement parfaitement visible, et l'urgentiste, lui, qui ne s'est pas réalisé une mini trachéotomie. Et donc les deux ont été condamnés à une peine de prison avec sursis. Le troisième dossier, c'est un surdosage qui est reproché à un anesthésiste, et là encore qui se solde par une condamnation à une peine de prison avec sursis. Et le dernier dossier concerne une infirmière libérale à domicile, qui elle aussi va réaliser malheureusement un surdosage de morphine. Heureusement, là, on n'est pas en présence d'un décès. Les séquelles sont plus légères, mais on va avoir donc une condamnation pour blessure involontaire. De loin, comme je vous l'ai dit, ce sont les avis CCI que nous rencontrons de façon la plus fréquente dans nos dossiers. C'est cette procédure qui aujourd'hui, et comme les années précédentes, est toujours la plus utilisée par les demandeurs, tout simplement parce que cette procédure, elle est rapide et elle est gratuite. Il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat pour saisir la CCI. Et vous voyez qu'on a un peu moins de saisines en 2024. Comme je vous l'ai dit, en 2025, il en sera malheureusement totalement autrement avec cette augmentation de fréquence que nous avons constatée sur les 8 premiers mois de l'année. Et les avis rendus, nous en constatons 406, c'est-à-dire moins 4% par rapport à l'année précédente. Mais le nombre de professionnels de santé mis en cause reste à peu près identique. C'est dans le cadre de cette procédure gratuite, comme je vous l'ai dit, on voit des dossiers pour lesquels de très nombreux mis en cause sont poursuivis. Et ce que l'on constate, et ça n'est pas une tendance conjoncturelle, c'est vraiment structurel, ce que l'on constate, c'est que chaque année, les CCI ont tendance à retenir la responsabilité des professionnels de santé un peu plus que l'année précédente. Vous voyez, c'était 37% de dossiers qui concluaient à la faute de l'un des professionnels mis en cause en 2022. Ça a été 43% en 2023 et c'est 45% aujourd'hui en 2024. Et corrélativement, le nombre d'avis CCI qui retiennent une indemnisation au titre de la solidarité nationale, au titre de l'aléa thérapeutique, eh bien, diminue. On était en 2023 à 21% et ça n'est que 16% aujourd'hui. Donc, on constate, pour me résumer, une tendance à la sévérité des magistrats dans les décisions de justice qu'ils rendent, mais on constate aussi, à l'encontre des professionnels de santé et des établissements mis en cause, une tendance à la sévérité accrue des avis rendus par les CCI. Voilà ce que l'on pouvait dire pour cette première partie. Bien sûr, vous avez sur ce lien accès à la totalité de notre rapport, spécialité par spécialité. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, puisque le temps nous manque, on va à l'essentiel dans les propos que nous tenons aujourd'hui. Est-ce que sur cette première partie, vous avez quelques questions auxquelles Thierry et moi répondrons bien volontiers? Ou est-ce qu'on passe?
Oui, je peux parler. Oui, j'avais sur le côté, vous évoquiez la problématique des déserts médicaux et du pénurie de médecins. Est-ce que concrètement, dans les chiffres, dans les dossiers que vous. Ce point-là est véritablement.
Alors,
explique vraiment.
On va y revenir, on va vous montrer justement nos chiffres dans un instant. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'on peut passer. Je vais passer tout de suite la parole à Thierry.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On voulait vous présenter un point d'actualité ou plutôt d'étape concernant les dossiers Androcure, Luténil, etc. Donc vous avez entendu parler bien évidemment, ce qu'on appelle des projets statifs, qui, comme vous le savez, peuvent induire dans certaines conditions ce qu'on appelle des méningiomes, qui sont des tumeurs cérébrales bénignes. Juste pour rappeler un mot de contexte, donc ces molécules sont ce qu'on appelle des projets statifs de synthèse, hein, sont des hormones qui ont des propriétés anti-androgéniques, donc anti-masculines, pour faire plus simple. On parle de différentes molécules, hein, vous avez dû sans doute publier des choses sur ces sujets, donc Androcure, DN35, Luténil, Luteron. Il y a tout un collectif, bien évidemment, qui s'est mobilisé autour de ces molécules. Les indications essentiellement pour ce qui est des indications AMM avec autorisation de mise sur le marché, hirsutisme féminin majeur, on le met un petit peu à part, tumeur de prostate paraphilie et puis des dysphories de genre. Et puis une deuxième indication majeure, c'était l'hyperandrogénie, donc l'acné, c'est passé, séborrhée, alopécie, hyperpilosité, tous ces troubles qui sont liés à des hormones un petit peu trop présentes. Les conséquences, vous les connaissez également. Il s'avère que qu'au niveau cérébral, des récepteurs à ces produits sont présents. Lorsque ces récepteurs sont activés, ils peuvent provoquer ce qu'on appelle des méningiomes, favoriser en tout cas le développement de ces méningiomes. Ce sont des tumeurs cérébrales bénignes, mais qui en grossissant provoquent bien évidemment quelques complications. C'est un effet dose dépendant. Et lorsqu'on arrête le traitement, il peut y avoir une stabilisation, voire une régression de ces lésions. Si on reprend un petit peu l'histoire, par exemple, de l'Androcure, qui est le plus connu, en tout cas le premier qui a déclenché ces différentes actions judiciaires, mis sur le marché, je vais aller très vite, hein, il y a beaucoup de textes, mais je vais aller très vite, mis sur le marché avec une AMM en 1980 pour l'Androcure 50. Il faut attendre 2007 pour une première publication avec une interrogation sur un possible lien entre la prise de ces molécules et l'apparition de méningiomes. Ce sont les équipes du professeur Frolich qui publient, et ça a son importance, dans la revue de médecine interne en 2007, une revue hyper spécialisée. 2008, le laboratoire qui commercialise Androcure demande à l'AFSAPS, à l'époque ce n'était pas encore la NSM, mais l'AFSAPS demande de modifier le RCP, résumé caractéristique du produit et de la notice d'information. En novembre 2009, la France alerte l'Agence européenne du médicament en mentionnant ce risque potentiel de méningiome. Il faut attendre novembre 2011. Il faut attendre novembre 2011 pour que le risque de méningiome soit mentionné au niveau du RCP, qu'une lettre d'information soit adressée aux professionnels de santé. Mais cette lettre n'est adressée qu'aux spécialistes concernés par ces prescriptions, donc gynéco, endocrinologue. Les médecins généralistes sont tenus à l'écart de ces histoires-là. Modification de la notice, mais on ne sait pas bien à quelle période, c'est quand même un petit peu gênant. Ensuite, les choses s'emballent un petit peu. En 2014, une enquête est lancée par la NSM. On lance une autre enquête en 2018. Publication de cette enquête dont vous avez entendu parler, qui est EPIPHAR, qui confirme l'augmentation du risque de méningiome après utilisation prolongée d'Androcure. Donc c'est une enquête avec les organismes sociaux et Larry Boissière, ce qui conduit ensuite en septembre un courrier de la NSM aux professionnels de santé avec de nouvelles recommandations. Et ensuite les choses s'enclenchent avec une limitation des prescriptions et puis d'autres recommandations de prudence. Vous avez à l'écran quelques chiffres, puisque bien évidemment nos sociétaires sont concernés par ces histoires de prescriptions de projets statifs. À l'heure actuelle, nous avons 149 dossiers concernant nos assurés, aussi bien des généralistes que des spécialistes endocrino ou gynéco, par exemple. La moyenne d'âge des patientes, 57 ans. Les prescriptions sont étalées de 89 à 2010, donc nous n'avons pas de prescription au-delà des bonnes recommandations, ce qui a son importance, bien évidemment. Et dans ces histoires de prescription, de mise en cause, il y a à la fois les professionnels de santé, sans surprise, les différents laboratoires, entre le produit Princeps et les différents génériques, et puis bien évidemment la NSM, mais auparavant l'AFSAPS. Grosso modo, 13 millions de provisions si nous devons indemniser l'intégralité de ces mises en cause, qui rejoint les propos de Nicolas tout à l'heure. au niveau des typologies de mise en cause, plutôt du judiciaire, ce qui complique un petit peu évidemment les procédures, en tout cas ralentit un petit peu les procédures. Très peu d'amiables, vous le voyez, des CCI, puis parfois CCI, ensuite tribunal, ce qui là encore complique un petit peu les choses. Au niveau concernant uniquement l'endrocure, essentiellement des prescriptions hors à elles-mêmes, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas autorisées, ça veut dire simplement qu'il y avait une indication valable, mais qui ne figurait pas dans le RCP, ce qui là aussi est bien évidemment un sujet d'interrogation. Et au niveau des produits, on est pour l'instant plutôt sur Androcure, parfois l'Uténil, l'Utéran, ou un petit peu les trois molécules, puisqu'en règle générale, il y a beaucoup de prescripteurs dans ces histoires. Nicolas, je vais te laisser.
Alors évidemment, en fonction de l'historique que vous a fait Thierry, vous vous doutez bien que ce qui est extrêmement important dans ces dossiers, c'est d'une part la date à laquelle la prescription est intervenue, parce que toute la problématique, c'est de savoir si oui ou non les professionnels de santé mis en cause avaient notion, avaient connaissance du risque pour les patients de développer des méningiomes. Et à ce moment-là, si eux-mêmes étant informés, ils ont pu en informer au préalable leurs patientes. Et puis, deuxième point, c'est de savoir si oui ou non ces prescriptions sont intervenues dans le cadre de l'AMM. Vous avez vu aussi, Thierry vous l'a rappelé, que la majorité de ces dossiers sont portés devant les juridictions, mais c'est un contentieux qui est encore relativement jeune. Et donc, nous n'avons pas beaucoup de décisions de justice, nous en avons une simplement. Mais nous en attendons beaucoup d'autres qui vont arriver prochainement. Cette décision de justice, elle est intervenue le 2 juin 2025 et c'est une patiente qui a consommé sur plusieurs décennies les différentes spécialités parce qu'il y a eu à la fois de l'androcure, du luthéril et du luthéran, je crois, une consommation de ces trois médicaments. Et le médecin traitant qui était mis en cause a renouvelé des prescriptions d'un spécialiste endocrino. Le tribunal, dans un premier temps, a constaté que cet acétate de cyprotérone était bien associé à un risque de méningiome et a fait le lien entre, d'une part, les prescriptions et le développement de méningiome chez cette patiente. Trois laboratoires étaient mis en cause, les laboratoires Bayer, Sandoz et puis Viatrice Santé ex Mylan. Et évidemment, le débat juridique, comme je vous l'ai dit, portait sur les dates de prescription. Et donc, le contenu du RCP et les magistrats dans cette affaire ont considéré que les trois laboratoires ne s'étaient pas donné les moyens d'assurer une information d'une part des consommateurs, des utilisateurs et puis des professionnels de santé. Alors 2008, 2011, ultérieurement, vous voyez que en fonction de l'historique que vous a rappelé Thierry, la faute au niveau de ce devoir d'information peut être différemment appréciée par les magistrats et par les experts. Et puis, les magistrats ont considéré que l'information aussi à destination des professionnels de santé n'avait pas été effectuée de façon suffisante et donc les magistrats ont retenu la responsabilité des trois laboratoires, une responsabilité pour faute, un manquement au devoir d'information sur les risques justement liés au fait de pouvoir développer un méningiome. Mais de façon très, très étrange à notre sens, les magistrats ont aussi considéré que le médecin généraliste avait lui aussi manqué à son devoir d'information, alors qu'à l'époque où les prescriptions sont intervenues, à notre connaissance, eh bien, cette information n'avait pas été portée de façon pertinente, justement, à la connaissance du médecin généraliste. Et donc, alors certes, la responsabilité a été appréciée de façon différente, puisque, alors d'abord, c'est une perte de chance qui a été retenue par les magistrats, puisque dûment informée, peut-être que la patiente aurait accepté néanmoins les prescriptions et la consommation de ces médicaments. Les laboratoires ont été condamnés à 97% du préjudice, et le médecin traitant à 2%, et que le pharmacien pourra avoir délivré lui aussi les médicaments sans alerter sa patiente à 1%. Toute la question, c'est encore une fois au niveau du médecin prescripteur, c'est de savoir si l'information avait été dûment portée à sa connaissance quant à ce risque de développer des méningiomes, et à ce moment-là, la possibilité pour lui, évidemment, récurrente d'en informer ses patientes de façon appropriée.
Merci, Nicole. Alors, effectivement, 2%, c'est peu. On est bien d'accord là-dessus. Néanmoins, pour un médecin généraliste qui voit tout un tas de pathologies, la question se pose quand même, est-ce que c'est bien tout à fait logique, à côté des laboratoires, sans parler de l'ABSAT, ensuite à l'ANSM. Si on reprend un petit peu l'histoire, c'est une méningiome, c'est une histoire de découverte très récente, 2007. Des recommandations qui ont évolué au fil du temps, on vous l'a dit. Il faut savoir qu'en France, il y a une spécificité qui est l'école de gynécologie médicale, c'est-à-dire des services hospitaliers. Donc en CHU, poussait dans les années 70-80 tous ces produits pour en disant qu'il y a une vraie efficacité. Et vous savez que les services universitaires, c'est là où sont formés les médecins. Donc c'est, je trouve, un petit peu gonflé, entre guillemets, de reprocher des choses comme ça à un médecin généraliste. Société française d'endocrino recommandait ces traitements en 2010-2017. Commission de transparence, des organismes sociaux, services médicaux rendus importants, 2001, 2006, 2012, 2007, etc. La lettre d'information professionnelle de santé en 2011 renvoie au RCP et à la notice, mais sans mentionner le risque de méningiome. Le courrier dit simplement « Allez voir le RCP qui a été modifié ». C'est quand même un petit peu gonflé également. La liste des destinataires est introuvable. Le labo ne peut pas démontrer qu'il a vraiment informé tout le monde. Les spécialistes et les généralistes sont traités d'une façon différente, on le voit bien. Il y a un décalage également, et Nicolas en a parlé, entre le produit Princeps, l'Androcur, et puis les différents génériques. Réactivité des organismes de tutelle, et puis, alors, c'est pas une hirondelle qui fait le printemps, mais c'est un seul article en 2007 fait le printemps sur ces histoires, et en tant que médecin, je trouve un petit peu gonflé, désolé du terme, mais de reprocher à des médecins un défaut d'information qui, à l'époque, n'était pas décrit d'une façon évidente. Voilà, c'était notre petit commentaire sur une affaire qui nous mobilise beaucoup, comme vous l'imaginez. Nicolas, je laisse passer le micro.
Voilà, on va terminer sur les déserts médicaux. On vous a dit que c'est le problème de la politique d'accès aux soins. La qualité des soins délivrés tient évidemment à l'accessibilité aux soins. C'est l'enjeu majeur de nos politiques de santé aujourd'hui, et les constats qui sont faits par les pouvoirs publics eux-mêmes sont extrêmement alarmants. 87% du territoire qui est concerné par les déserts médicaux. On a 6 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant qui peut assurer donc le lien entre les différents professionnels de santé. Et puis, tout récemment, vous avez vu, publié par les ARS, 151 zones qui sont classées rouges, dans lesquelles nos concitoyens ne trouvent pas une réponse adaptée à une prise en charge effective. C'est donc très certainement le défi majeur de notre système de santé aujourd'hui. Alors, les liens entre les déserts médicaux et la sinistralité, c'est Thierry qui va du coup développer ça.
Merci. Alors, on a essayé de regarder effectivement, pour répondre à votre question, est-ce qu'on retrouve dans les chiffres ces interrogations? Est-ce que, pour faire simple, on a une sur-sinistralité à la fois de la médecine générale et puis des urgentistes? Les patients, en l'absence de médecins traitants, vont plutôt dans les services d'urgence. Est-ce que ces difficultés se retrouvent dans nos chiffres? Vous voyez à l'écran, ce n'est pas évident, si évident. Vous avez 10 ans à l'écran de sinistralité. En rouge, le nombre de mises en cause.
Si on regarde la fréquence a tendance à baisser, mais nos portefeuilles se sont considérablement développés à la fois sur la médecine générale et sur les urgentistes. Donc je pense qu'au niveau du taux, du pourcentage, c'est quand même pas très très significatif. Et en nombre, bon, si on regarde à gros traits, il y a une certaine stabilité, modulo les variations annuelles. Donc pour la médecine générale, ça ne saute pas aux yeux, pas du tout. Et pour la médecine d'urgence, hein, puisqu'on assure beaucoup de, non pas de services d'urgence, mais d'urgentistes qui travaillent dans ces services, là c'est pareil. Encore une fois, c'est un portefeuille qui s'est considérablement développé, puisque la médecine d'urgence est devenue une spécialité à part entière à partir de 2017, comme vous le savez. Et au niveau du nombre, toujours en rouge, c'est pas flagrant du tout. Voilà. Donc de notre point de vue, en chiffres, on ne retrouve pas encore ces éléments. Par contre, quand on s'intéresse au dossier, et c'est notre quotidien avec l'équipe médicale, on voit quand même qu'il y a des éléments qui doivent attirer notre attention. Difficulté de suivi de pathologies chroniques, par exemple le diabète qui se décompense, manque de spécialistes, notamment d'endocrino. Le médecin traitant n'est pas toujours hyper formé pour suivre des diabètes qui se compliquent, avec des renouvellements de traitement par des généralistes. Des retards diagnostiques, sans surprise, hein, des pathologies tumorales qui sont diagnostiquées avec quelques mois, voire années de retard, des affections cardiovasculaires également, et puis des prises en charge dans des services d'urgence, avec des surcharges, vous le savez, des organisations du suivi, et je crois que c'est le rôle principal des urgences. On a un vrai sujet avec des patients qui restent plus longtemps dans les services d'urgence avant d'être transférés. Des hospitalisations, et puis quand on traite les dossiers au quotidien, comme c'est notre cas, on voit que se mettent en place des espèces de système D pour que le patient soit quand même bien pris en charge.
Voilà. Alors, j'ai essayé de vous synthétiser les moyens. Avant qu'on vous parle de nos actions personnelles, la MACSF, j'ai essayé de vous synthétiser les différentes pistes que les pouvoirs publics envisagent pour remédier à ces problèmes de déserts médicaux. D'abord, c'est réformer la profession infirmière. On va avoir un nouveau texte de loi. Alors, dans quel délai ? Difficile de le dire, compte tenu de la politique interne à la France. Mais on va avoir un nouveau cadre pour la profession d'infirmier. On parle donc de diagnostic infirmier, on parle de consultation infirmière, on parle de prescription infirmière, et on parle par la suite au niveau de textes d'application de la loi, de décrets, de nouvelles compétences avec la possibilité de pratiquer de nouveaux actes, ce qui devrait évidemment permettre de lutter contre le manque de médecins. Des créations de places de formation paramédicale, la création des IPA aussi participe à tout cela. Le déploiement des assistants médicaux qui avait pour but de rendre du temps médical aux médecins, et en les déchargeant de tout un tas de tâches administratives. On a supprimé définitivement le numerus clausus pour le transformer en numerus apertus, et donc on a ouvert quand même le nombre de médecins en formation de façon significative. On parle aussi de faire revenir en France les 10 000 étudiants partis se former à l'étranger, notamment en Roumanie. De diversifier aussi l'origine géographique et sociale des étudiants pour permettre à plus de jeunes d'accéder aux études de santé. Et puis sur un plan géographique, parce qu'on a fait le constat que dans la majorité des cas, les médecins s'installaient dans un endroit proche du lieu où ils avaient fait leurs études. Et donc il fallait prendre le problème dès leur étude. Les autres pistes, c'est encadrer avec le Conseil de l'Ordre des médecins les conditions d'exercice de l'activité de médecine esthétique pour la limiter à 10% du chiffre d'affaires d'un médecin généraliste conventionné, parce qu'on voit que la médecine esthétique se développe à vitesse grand V, mais ceci au détriment de la médecine traditionnelle. Et puis on parle aussi de supprimer le plafond de 20% d'activité de téléconsultation qui est inscrit dans la convention pour permettre donc le recours à cette modalité de façon beaucoup plus large. Et puis et enfin, et vous le connaissez, déployer un principe de solidarité territoriale qui obligerait ou inciterait les médecins qui travaillent dans des zones où il n'y a pas de désert médical à venir travailler dans des zones sous-denses. Et puis aussi, cette solidarité territoriale s'accompagnerait, selon les différents projets, d'une régulation à l'installation. On ne permettrait plus, on n'autoriserait plus un médecin à venir s'installer dans une zone déjà suffisamment dotée en médecins, mais en revanche, on contrôlerait et on inciterait les médecins à venir s'installer dans des zones sous-denses. On a deux propositions de loi. On a la proposition de loi Garot et la proposition de loi Mouillet. L'une déposée devant le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre devant le bureau du Sénat. Et il est aujourd'hui difficile de savoir celle qui sera adoptée, s'il y en a une qui est adoptée. Et aujourd'hui, il y a une incitation hors loi pour les médecins à venir travailler dans des zones sous-denses à raison de 2 jours par mois. Et c'est une incitation financière qui a été créée par notre dernier gouvernement avec des initiatives, ça et là, qu'on peut constater dans certaines zones. On veut aussi moderniser et simplifier les organisations entre professionnels de santé, notamment par la création de structures comme les maisons de santé pluridisciplinaires et les CPTS, et puis travailler avec les élus locaux pour créer des conditions attractives pour les étudiants et les professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Et puis notre nouveau Premier ministre a annoncé, toujours dans le cadre de cette volonté d'accessibilité aux soins, de créer 5000 nouvelles maisons de santé pluridisciplinaires pour prendre en charge les patients dans un rayon à moins d'une demi-heure de leur domicile. Pour autant, alors tout ceci est loin d'avoir été mis en place, et de notre côté, nous estimons avoir une responsabilité sociale sur l'accessibilité aux soins, et Thierry va vous préciser tout ce que nous avons mis en place dès à présent.
Merci Nicolas. Nos équipes travaillent beaucoup pour participer, pour investir dans différents acteurs de santé. Vous les avez à l'écran, Vivato Santé, c'est un gros groupe de santé français qui est copiloté par les médecins qui exercent, qui se déploient sur l'ensemble du territoire, mais pas uniquement. Mais ex-Orpea également, donc avec le soutien de la MSFF, Saint-Magnance du côté des laboratoires. Doc City, ce sont des structures toutes équipées qui s'installent, qui permettent aux professionnels de santé de venir y exercer. C'est un modèle qui est de plus en plus la cote auprès des jeunes professionnels de santé qui ne veulent pas investir dans des structures et qui préfèrent directement intégrer des solutions clés en main. Donc beaucoup d'investissements dans le domaine de la santé. Vous connaissez sans doute Médecins Solidaires, dont la CSF est un des premiers acteurs et acteurs très très efficients. Médecins Solidaires, ce sont des structures qui s'installent dans des déserts médicaux, des vrais déserts médicaux. Vous avez la répartition sur cette carte. Et ce sont des médecins, jeunes médecins remplaçants, des retraités ou même des médecins d'activité qui décident de consacrer une semaine par an pour aller exercer dans ces structures, étant salariés par cette structure, ce qui a permis à plusieurs milliers de Français de retrouver un médecin traitant. Donc le médecin va exercer une semaine parfois deux semaines, et ça permet de faire fonctionner des centres. 9 centres sont déjà ouverts et 2 sont en cours d'ouverture. C'est vraiment une très très belle création solidaire. Du côté de MSSF, nous avons également beaucoup d'actions vis-à-vis de nos assurés pour les accompagner au mieux. Vous voyez 1200 articles disponibles sur notre site qui concernent toute l'activité professionnelle, des newsletters mensuels, c'est l'activité de Florence Duret, des formations sur la responsabilité professionnelle, bien entendu. Nous avons également l'activité via la prévention médicale, qui est une association qui a pour vocation de prévenir le risque, avec comme site internet, des newsletters, des grands angles et un prix annuel chaque année. Je valide parce que je crois que le temps m'est un petit peu compté. Nous avons un point qui m'intéresse énormément, qui est très cher, c'est ce qu'on appelle l'innovation santé. Nous accompagnons, MSSF accompagne beaucoup de start-up dans le domaine de la santé et pratiquement exclusivement dans des solutions qui sécurisent les pratiques, quoi, qui améliorent les pratiques. Hein. Vous avez à l'écran quelques-unes des start-up dans lesquelles MSSF a investi. Je pense que certains noms doivent vous parler. Lifen, Okin, bien évidemment. Synapse, qui est une jeune pousse française qui sécurise vraiment les prescriptions, qu'elle détecte les interactions médicamenteuses. Vous en avez sans doute entendu parler parce qu'ils ont lancé cette semaine MedGPT, qui est le premier ChatGPT entre guillemets français consacré uniquement aux soins et à la santé. Ça fonctionne très très bien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Donc on est très fiers de les accompagner. Un global, grosso modo, de 48 millions d'euros investis dans ces startups. Et chaque année, on envoie une centaine avec mes collègues qui s'occupent de cet aspect. On a également, toujours dans cet aspect innovation santé, on ne se contente pas d'investir, mais on partage les informations recueillies avec l'ensemble de nos assurés, avec beaucoup de newsletters, bien évidemment, qui poussent les solutions qui pourraient les intéresser. Des podcasts, ça ira mieux demain, je pense que vous les connaissez. Et on travaille également avec beaucoup d'incubateurs, notamment Eurosanté, le CHU de Lille, Lyon Biopole, Quest for Health et NextMed sur les hospices de Strasbourg, Paris Enco. Il y a vraiment une vraie porosité entre MACSF et ses incubateurs pour accompagner des startups. Et puis je terminerai sur cette slide, c'est l'activité de mes collègues Anne-Sophie et Lorraine. On est très présents auprès des jeunes générations de professionnels de santé, qu'ils soient paramédicaux ou médicaux, donc beaucoup d'associations internes. Vous voyez, on accompagne à peu près une soixantaine d'associations de jeunes professionnels de santé pour sécuriser leurs pratiques, faire de la prévention des risques et puis intervenir à leur côté vraiment pour essayer de sécuriser toute cette activité. Voilà, je suis allé vite, mais je crois que le temps était compté. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelques questions pour lancer la discussion.
Bonjour. J'avais trois petites questions. La première, c'était sur... est-ce que les praticiens qui sont mis en cause et condamnés restent couverts chez vous? Est-ce que vous avez une politique par rapport à ça? Je voulais savoir comment vous intervenez sur le risque pénal, parce que j'imagine que vous ne couvrez pas les amendes. Voilà, est-ce que c'est un coût pour vous, peut-être sur le suivi juridique ou l'aide aux praticiens? Et la dernière question, c'est sur l'IA. J'imagine que vous réfléchissez sur des sujets de responsabilité, notamment dans l'interprétation de radio, de choses comme ça. Je voulais savoir où étaient vos réflexions. Voilà. Merci.
Alors, première question, est-ce qu'on résilie nos sociétés à qui ont un sinistre? Non, certainement pas. Maintenant, comme tout assureur, on a sélectionné le bon grain de livret. Donc, il est clair que quand on voit des déviances trop importantes et une sursinistralité qui fait peser un risque trop important sur l'ensemble de la communauté professionnelle qu'on assure, on doit réagir. Il n'y a jamais de résiliation sèche à la MACSF. Il y a un accompagnement quand on voit qu'un professionnel de santé, par exemple un chirurgien, a un taux de sinistralité beaucoup plus important que ses confrères. On prend contact avec lui, on essaie, on discute, on a un collaborateur qui va le voir, qui essaie de déterminer les causes, parce que c'est des causes professionnelles, mais très souvent c'est des causes hors profession, un divorce, voilà, qui va perturber l'activité. Voilà, on essaie de comprendre, on essaie de prendre les mesures. Si in fine les choses ne se rétablissent pas et qu'effectivement on est en présence d'une déviance au niveau de la sinistralité trop importante, ça peut aller jusqu'à la résiliation, bien sûr. Et à ce moment-là, un praticien qui ne trouve plus à s'assurer peut saisir le bureau central de tarification, puisque l'assurance est obligatoire. Et dans la très grande majorité des cas, les praticiens qui sont résiliés, eh bien, parce que le choix leur incombe, hein, le choix de la société. Moi, je suis membre du BCT, je peux vous en parler la plupart du temps. À ce moment-là, ils nous rechoisissent pour qu'on continue à les assurer via une décision du BCT. C'est des décisions exceptionnelles qu'on prend, mais qu'on peut être amené à prendre. Un autre exemple, hein, qui n'a rien à voir avec les soins, mais quand on a une affaire de mœurs, une affaire d'attouchement ou de viol d'un professionnel de santé sur des patientes, là, on prend la décision, c'est sûr. La bonne foi prime, à savoir que, je prends un exemple, hein, professionnels de santé mis en cause pour viol d'une patiente, eh bien, s'il nous affirme qu'il n'est pas, s'il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, eh bien, au titre de la protection juridique, on va le défendre tant qu'il affirme que oui, il n'en est pas responsable de ces faits. Et puis, si jamais il est condamné, évidemment, on en tirera les conséquences et on mettra fin à notre combat. La deuxième question, c'était, je l'ai
perdu. Sur le pénal.
Le pénal. Eh bien, le pénal, on accompagne nos sociétaires. Évidemment, si un de nos sociétaires est condamné à une peine de prison, je n'irai pas en prison à sa place. Et s'il est condamné à une amende, l'amende est personnelle, hein, elle est inassurable, donc elle restera à sa charge. En revanche, évidemment, tous les dommages et intérêts auquel le professionnel de santé peut être condamné, eh bien, comme au civil, évidemment, c'est nous qui allons les prendre en charge. Ça, il n'y a aucun problème. Et on prend en charge toute la défense. Toute la défense, toute la logistique, tous les frais d'avocat. Voilà notre rôle. Et puis, alors, sur l'IA, bon, on en aurait pour des heures à en parler. Être synthétique, c'est un peu difficile. L'IA, évidemment, est déjà utilisé d'une façon totalement quotidienne par certains spécialistes, hein, en radiologie pour interpréter les radios, en biologie, en chirurgie, dans d'autres domaines. Et donc, voilà, on regarde l'évolution de ce risque et on regarde aussi la façon dont les magistrats et dont le législateur va traiter l'IA. Il y a un grand principe, c'est que la décision humaine doit primer. Il doit y avoir un contrôle de l'humain sur la machine, hein, quelle que soit la qualité de l'algorithme. L'IA a fait ses preuves. Hein. Il a été démontré qu'en dermato, l'IA allait permettre aux dermatologues de dépister encore mieux le mélanome que l'œil averti du praticien, ou aller pour le radiologue détecter tout ce qu'il fallait détecter peut-être encore mieux que l'œil humain, mais il doit y avoir un contrôle humain. Et évidemment, c'est les côtés éthiques doivent être respectés, mais sur un plan juridique, voilà, on veille à ce que la responsabilité évolue pas au détriment des utilisateurs professionnels. Hein. Il y a le concepteur de l'algorithme, d'une part, qui doit avoir une responsabilité si son algorithme fait défaut à un moment, et puis l'utilisateur professionnel, lui, qui doit réagir si la notion du fait que l'algorithme est défaillant, mais ça, il faut qu'il en ait une notion au préalable. Aujourd'hui, je me retourne vers Thierry, mais à mon sens, on n'a pas eu de mise en cause de responsabilité liée à une utilisation défaillante de l'IA. Aujourd'hui, on n'en a pas eu.
Non, alors que, pardon, juste pour compléter sur la radio, hein, vous avez vu dans les startups dans lesquelles MACSF a investi, il y a Glimmer qui est un des leaders de ce type de solution. On les accompagne depuis 2017. Pour avoir des échanges fréquents avec eux, il n'y a pas eu de réclamation de ce côté-là. Et in fine, c'est toujours le radiologue qui, de toute façon, voit les images. Avec une lésion suspecte qui va être encadrée, hein, vous avez vu sans doute fonctionner ce système, mais c'est le radiologue qui lit in fine et qui signe le compte rendu.
Bien, on va vous remercier de votre présence et vous inviter, si vous avez encore un peu de temps, à partager un peu.